Les médias, pour moi, c'est
des chroniqueurs, des animateurs.
Derrière, il y a plein de choses, des techniciens, des micros.
Interclasse.
Ça part de ma génération.
J'ai ma propre opinion, je pense que je réfléchis.
Bonsoir à tous, Interclasse, jusqu'à 21h, un nouveau rendez-vous de cette grille d'été réalisé par des élèves de collège et de lycée, 4 lycées et 3 collèges.
Interclasse saison 4, c'est un truc de ouf.
Let's go
sur France Inter.
Et comment ne pas commencer par vous, cher Emmanuel Davier? Bonsoir.
Bonsoir Patricia Martin.
Puisque vous avez porté ce projet depuis le début, c'est la 4e année qu'il existe et c'est parti d'un événement précis.
C'est parti des attentats de janvier 2015. On a reçu beaucoup de demandes d'enseignants à la rédaction. Des enseignants qui souhaitaient que l'on vienne, que les journalistes viennent en classe pour les épauler et expliquer aux élèves en quoi consistait la liberté d'expression, la caricature, parce que des élèves mettaient en balance l'humour de Dieudonné ou celui de Charlie Hebdo. Et parallèlement, Laurence Bloch, la directrice de France Inter, souhaitait s'engager dans une action citoyenne. Et le 15 janvier, elle a entendu, dans le 13h de Claire Servageant, elle a entendu Yanis Roder, professeur d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis.
Ah, c'est le monsieur qui est là?
Absolument. D'accord. Donc, il témoignera. Et elle l'a entendu et elle m'a demandé d'organiser une rencontre avec lui parce qu'elle avait été très touchée par son témoignage. Une semaine après, il est venu à France Inter. Et donc, Laurence Bloch lui a demandé de nous parler de son quotidien d'enseignant. Et elle lui a posé une question à laquelle, je pense, il ne s'attendait pas du tout. Cette question, c'était « Que pourrait-on faire pour vous ?» Mmh. Et la réponse de Yanis Roder a été « Peut-être une classe média ». Et là, Laurence Bloch s'est tournée vers moi et elle m'a dit « Emmanuel, je te charge de concevoir ce programme ». Moi, je l'ai fait parallèlement à ma fonction de chef du service société et ça a pris plusieurs mois. C'est pas du tout un programme qui sort de nulle part, c'est un programme qui est extrêmement réfléchi et conceptualisé. Et la vocation donc d'Interclasse, c'est de faire découvrir à des collégiens et à des lycéens, plutôt en rupture peut-être avec la presse, et bien les coulisses du métier de journaliste pour leur permettre de comprendre les mécanismes de l'information, construire un reportage, développer leur esprit critique et puis prendre confiance en eux dans la prise de parole et dans la découverte d'univers qu'ils ne connaissent pas. Il faut savoir que Interclasse, c'est un programme qui est unique dans l'audiovisuel français. Pourquoi il est unique? Parce que d'abord, il est gratuit, alors que certains font payer. Il dure 9 mois et cet ancrage sur le temps long pour Yanis Roder et pour moi, il était extrêmement important parce qu'il permet l'efficacité. Interclasse, c'est pas du tout cosmétique, c'est un programme qui est ambitieux, qui est exigeant et ses résultats sont probants, comme en témoignent les enseignants et les élèves.
Et depuis le début, 1000 personnes ont été impliquées. Yanis Roder, bonsoir.
Bonsoir Patricia.
Maud Oudard, bonsoir. Vous êtes tous les deux donc les professeurs de la classe qui est autour de nous dans ce studio 621 de Radio France. Vous vous souvenez, Yanis, de ce moment précis dont Emmanuel vient de parler?
J'aurais du mal à ne pas m'en souvenir parce que effectivement, j'avais été interviewé par Claire Servageant dans son 13h et puis dans la foulée, j'avais fait la matinale de Patrick Cohen et dans le taxi qui me ramenait, je crois, de cette matinale, j'ai reçu un coup de fil de Laurence Bloch. Puis surtout cette question, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que France Inter s'engage? Et effectivement, l'idée qui m'est venue subitement sur le modèle de d'autres classes qui existent par ailleurs, c'est une collaboration donc étroite entre France Inter, entre la station et nos élèves, nos classes. D'où l'idée de cette classe média.
Parce que le rôle de l'école, c'est évidemment d'enseigner, de donner des connaissances, de permettre d'avoir un métier plus tard, mais c'est aussi de devenir citoyen.
C'est d'ouvrir. Ça. Je crois que c'est le rôle de l'école, c'est d'ouvrir à d'autres espaces, d'ouvrir à d'autres idées que celles qui circulent dans les milieux que nous fréquentons, et donc justement de voir que d'autres mondes existent, d'autres visions du monde existent.
Maud Oudard, vous allez nous dire tout à l'heure, parce que vous êtes entré dans l'expérience il y a 3 ans, je crois que c'est une belle expérience, parce que je sais que vous êtes très très investi, donc vous allez nous en parler, mais alors ils sont sages, comme ça on les a pas entendus depuis le début, mais évidemment je dis bonsoir à tous ceux et toutes celles qui sont autour de moi du collège Pierre de Jeter à Saint-Denis qui sont en 3e.
Ouais ! L'égalité des sexes.
La liberté d'expression.
La colère.
Les gilets jaunes.
Le partage.
Vivre en France.
Vivre en France.
Vivre en France.
En 2019.
Moi je pense que vous avez largement tous les épaules et la carrure. Donc le conseil que je vous donne en tant que gars du 20e siècle, c'est d'avoir confiance en vous et d'y aller, tout simplement.
Voilà, c'est l'extrait d'un reportage qu'on va écouter tout à l'heure. Un groupe a rencontré Abdelmalik. Beaucoup le connaissent, ce rappeur, auteur, compositeur, mais qui est aussi écrivain et réalisateur. En tout, il y aura 4 reportages fort instructifs dans cette émission. Un sur les préjugés, parce que Paris a des préjugés sur Saint-Denis, mais l'inverse est vrai aussi. Au cours d'un autre reportage, il sera question de discrimination, de stigmates qui collent à la peau des habitants de certains territoires. Et puis nous irons dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Vous l'entendez, c'est du lourd, mais avant. Une chronique, banlieue de vie. Bonsoir Fanny Léonore Crouzet.
Bonsoir Patricia.
Chronique qui, chaque semaine, donc, va donner la parole à cette jeunesse que l'on dit de banlieue. C'est une visite guidée à travers les quartiers, avec l'espoir de vous donner, à vous qui nous écoutez, de vous donner envie de vous y promener. Cette chronique, c'est donc la vôtre, Fanny.
Une odeur de fruits frais et des arômes épicés flottent dans l'air du marché de Saint-Denis. Une dame se faufile dans les allées, le pas nonchalant, à la recherche des meilleures affaires.
Marché conclu.
Elle bifurque. Là, c'est le coin des produits locaux, des maraîchers. On serpente aussi vite qu'on le peut entre les cabas qui se remplissent, jusqu'à l'entrée de la grande halle. Le traiteur afro-caribéen propose un jus de bissap et des acras. Ou alors, on se laisse tenter par un tagine et des pâtisseries dans le stand juste à côté.
Mmh. Excellent.
À deux pas, la basilique gothique, classée monument historique en 1862. De l'effervescence, on passe au silence. Ému de contempler la tombe des rois de France, l'histoire de notre pays. L'actualité dramatique de ce mois de novembre 2015 a marqué la ville. Le Stade de France, le 13, l'assaut de la rue du Corbillon, 5 jours plus tard, sur tous nos écrans. Quelques mois après, Interclasse est né du besoin de communiquer et de faire tomber les préjugés. Et on commence avec Adam, 15 ans, qui attend au soleil devant les grilles du parc de la Légion d'honneur.
Je m'appelle Adam Laouraoui, je suis en classe de 3e D au collège Pierre de Jeter. Moi je vis à Saint-Denis depuis presque 5 ans déjà, avec ma famille.
Comment tu me décrirais Saint-Denis?
Cette ville a beaucoup de charme, pour ceux qui la connaissent bien et qui y vivent.
Justement, pour me faire découvrir Saint-Denis, tu as choisi de m'emmener à un endroit. Où est-ce qu'on est?
Le plus grand parc de Saint-Denis, c'est le parc de la Légion d'honneur, qui est un grand parc, un beau parc aussi. C'est un endroit qui est bien entretenu, c'est un endroit où on peut respirer. Un endroit assez vert. Par exemple, là, il y a des belles fleurs. Belles roses.
C'est des tulipes.
Enfin, des tulipes. Après, il y a un phare. C'est pour illuminer, je dirais, les plantes qui sont en bas. Pour que ce soit toujours alimenté avec une source lumineuse.
Pour qu'elles poussent mieux?
Oui, pendant la nuit.
Tu l'as vérifié, ça?
Non, mais je pense que c'est ça. Saint-Denis, c'est une belle ville, mais c'est qu'il y a un peu de clichés qui tournent autour de cette ville.
Quel cliché?
Les clichés de la drogue, des voyous, racailles, etc.
Et qu'est-ce que tu en penses, toi?
Moi, j'en pense que c'est faux. Les clichés, ils viennent, pour moi, ils viennent des musiques, du rap et des films. Par exemple, le film La Cité de Dieu. C'est un film qui tourne autour de la drogue, tout ça, qui parle des cités et tout.
Et les rappeurs, lesquels disent des choses fausses sur la banlieue?
Il y a plusieurs rappeurs, il y a Caris. Regardez par exemple cette musique de Kobalade.
Alors il parle de quoi dans ce morceau? C'est un artiste qui s'appelle Kobalade. La chanson elle s'appelle Cellophane.
Je vendais de la drogue à l'école. Je vendais de la drogue à l'école. J'ai quitté l'école pour la dope. J'ai quitté l'école pour la dope. 35 et menace.
Là, il dit qu'il a quitté l'école pour la drogue. J'écoutais l'interview de l'artiste sur Move. L'intervieweur Pascal Sofran lui dit. Est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est faux? Après, il dit que c'est pas partout dans les quartiers qui se passe ça, mais il y en a certains où il y a ce genre de problème. Mais
là, il y a des gens qui vont t'écouter. Qu'est-ce que t'aimerais leur dire, toi, Adam, 15 ans, qui habite à Saint-Denis?
Arrêtez de croire ce que vous regardez à la télé et venez par vous-même et vous regarderez que Saint-Denis est une belle ville.
Ou tu les invites à venir et tu leur ferais une visite comme à moi?
Enfin, s'ils sont nombreux. Allez, c'est parti.
Moi, je suis sûre que même s'ils sont nombreux, tu t'en tireras très bien. Bonsoir, Adam.
Bonsoir.
Tu sais que tu parles très bien de ta ville et que tu donnes envie d'y aller. Ton analyse, je la trouve très fine et très lucide. T'es bien dans ce parc? Tu y vas souvent?
Oui, j'y vais souvent avec des amis pour jouer au foot.
Et sinon, où est-ce que tu vas te balader? Il y a plein de jolies choses à Saint-Denis.
Je vais soit au canal, soit au parc à la Légion d'honneur, soit je tourne autour de Saint-Denis, mais après, je rentre chez moi.
Aboudou, est-ce que toi aussi, tu te promènes comme Adam dans ce parc ou sinon, où est-ce que tu vas?
Je me promène dans Saint-Denis, par exemple, le parc de la Courneuve. Il y a aussi Marville, où il y a plusieurs terrains de football.
Ouais. Denis, toi, comment est-ce que tu te promènes dans Saint-Denis? Est-ce que tu aimes la ville où tu habites?
Bah oui, j'aime ma ville. Et aussi, je me promène à la basilique.
Ouais. Madiava, comment tu te promènes, toi, dans Saint-Denis?
Bah moi, avec mes potes, on joue au foot. Je vais au stade de l'Aune pour m'entraîner. Et voilà.
Ouais, vous êtes tous des sportifs, hein?
J'y vais avec Aboudou, exactement.
Ouais, vous jouez ensemble?
Ouais. Oui.
Interclasse.
Ça va, ça se passe.
Sur France Inter.
Alors, premier reportage de cette émission qui porte sur les préjugés entre Paris et Saint-Denis. On l'écoute, puis après, vous apporterez vos commentaires.
Rue de la République à Saint-Denis, nous rencontrons Alain, qui vit ici depuis un an. Que pense-t-il de la capitale qui commence à quelques stations de métro?
Ce que je pense de Paris? C'est un peu un musée, en fait, Paris. Un peu figé, quoi, je trouve. Quand je me balade à Paris par rapport à Saint-Denis, c'est souvent une impression, c'est très joli en fait, mais parfois on a l'impression que c'est un peu sous verre en fait.
Oscar vit à Saint-Denis depuis 10 ans. Il a constaté que les rapports entre les Parisiens et les Dionysiens sont très rares.
Dans mon groupe de potes, c'était compliqué de les faire venir. Ils avaient peur de venir même à 20h ici, quoi, c'était ridicule. Surtout pour les nanas en particulier. Et puis il y a une espèce de frontière chez les Parisiens, le passer le périph', c'est un acte presque militant.
République. De la rue de la République à Saint-Denis, nous sommes allés place de la République à Paris. Pour y rencontrer Martine, qui a 70 ans. Connaît-elle Saint-Denis?
Oui, par les actualités, les sorties du métro à Saint-Denis, où on peut acheter tout ce qu'on veut, si vous voyez ce que je veux dire. Cannabis, cocaïne, héroïne, nectar, etc., etc. Je crois, enfin, ce que je vois aux actualités, hein.
Hésitante, Leïla accepte finalement de nous donner sa vision de Saint-Denis. Elle habite dans le 17e arrondissement et a longtemps fréquenté le marché de Saint-Denis. Mais aujourd'hui, elle n'y va plus. On lui demande pourquoi.
C'est malheureux et triste à dire, mais Saint-Denis, c'est devenu la zone, en fait.
Vous voulez dire quoi par zone?
Je pense que les autorités, en fait, elles ont laissé des gens se mettre entre eux et des gens qui sont venus d'il n'y a pas très longtemps et... depuis quelques années, et pourtant il y a une très belle basilique et j'aimais bien Saint-Denis avant. Mais quand on va là à Saint-Denis, on a l'impression de, je sais pas, d'être dans un autre pays. Et puis c'est eux qui vous regardent mal. On a l'impression que vous avez rien à faire là-bas.
Chacun campe sur ses positions. Pour les habitants de Saint-Denis, les Parisiens s'enferment dans des préjugés. Pour les habitants de Paris, Saint-Denis n'est pas accueillante. Au pied de la statue de la République, nous attendait Raphaël Enthoven, professeur de philosophie et écrivain.
Pourquoi les Parisiens ils pensent que Saint-Denis c'est mauvais?
Si vous me permettez, ce que vous dites là, sur les préjugés des Parisiens, est un préjugé des Dionysiens sur les Parisiens.
Il a partagé son avis sur l'origine de cette fracture entre Parisiens et Dionysiens.
Ce que Saint-Denis incarne aux yeux des Parisiens, c'est une forme de... de diversité conflictuelle, vous voyez? C'est-à-dire que ça fait peur, hein. Les gens ont peur. Comme on a peur de la nouveauté, comme on a peur de ce qu'on ignore, comme on désire rester entre soi. Mais ce que je veux dire là, c'est que ce phénomène parisien n'est pas typiquement parisien, il est propre à tout le monde. On a tous le désir, parce que c'est confortable, de se replier sur les gens qui pensent comme nous. Parce qu'on a le sentiment comme ça qu'avec une identité qu'on se fabrique, on est à l'abri. Et le vrai problème, c'est cette illusion-là. On n'est pas protégé quand on ne reste qu'avec les gens qui pensent comme soi. Au contraire, c'est là qu'on se met en danger.
Depuis Paris, il ne faut que quelques minutes en métro pour se rendre à Saint-Denis. Ou l'inverse.
Alors, rien de mieux que d'aller voir et de passer quelques heures dans une ville ou dans l'autre pour découvrir et sortir des clichés.
C'était un reportage de Dorcelin Émilie, Bourikou Chianis, Djabi Madjava, Mbizi Orlan, Kébé Mamadou, Merta Yassine.
Et sous la houlette de Mathilde Clatt qui vous a accompagné au cours de ce reportage. Alors Yacine, c'est toi, je me trompe pas, hein, c'est toi le porte-parole du groupe. Oui. Est-ce qu'il y a des choses là, dans celles qu'on a entendues, qui t'ont choqué?
Ouais, ils disent Saint-Denis, c'est de la racaille, c'est des préjugés quoi. Mais ils sont jamais venus, et la plupart ils sont jamais venus.
Mais tu penses qu'on a des préjugés sur vous, sur les Dionysiens?
Oui.
Ouais.
Oui.
Aboudou, c'est un oui, là, un vrai oui, ce que tu dis.
Oui. Dans notre ville, en fait, il y a beaucoup de développement. Par exemple, il y a beaucoup d'événements à Saint-Denis pendant l'année. Par exemple, il y a la fête de Saint-Denis, il y a le festival de Saint-Denis, il y a la fête des tulipes, il y a aussi la fête des voisins.
Ouais.
Il y a beaucoup d'enfants qui vont à l'école.
Ouais.
Et plus tard, bah, pour moi, Saint-Denis, ça sera une ville meilleure. En fait, j'aime ma ville.
Donc, t'es fière.
Ouais. Oui.
Madiava, qu'est-ce que tu voulais dire?
Alors, je suis d'accord avec Aboudou, mais il a juste oublié que Saint-Denis, il y a des monuments, comme la Légion d'honneur, la basilique, et voilà.
Mais ça, c'est par exemple la Légion d'honneur. Il y a le parc, mais il y a l'école aussi.
Là, c'est l'école, je parle.
L'école. Oui. Est-ce que vous regardez sortir les filles
oui,
à l'heure
parfois.
De...
Ah oui, ouais. Oui. Mais jamais en tenue.
Eh oui, parce qu'elles ont un uniforme, effectivement, elles sont bleu marine, c'est assez strict, hein.
Ouais.
Alors quand vous les voyez, elles sont comme tous les jeunes.
Non, on dirait pas. Elles sont plus civilisées que nous. Parce qu'à Saint-Denis, on s'habille tout en noir ou un truc comme ça.
Tout en survêt. Ouais, la Légion d'honneur,
dans le siège vestimentaire.
Jamais on va mettre des jeans ou des chemises, non.
C'est donc l'école de la Légion d'honneur, il faut bien préciser.
L'école de la Légion d'honneur.
Est-ce que vous vous parlez quelquefois
Bah oui, on est des camarades.
Avec les filles de la
non.
L'école de la Légion
jamais.
D'honneur.
J'ai déjà posé une question à une fille. Hein. J'ai posé une question, je lui ai demandé est-ce que là-bas c'est dur. Après, elle m'a dit non, c'est normal, mais c'est juste. C'est strict.
Mais elle t'a répondu gentiment.
Bah oui.
Mathilde Clat, on ne vous a pas encore entendu. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez donc mené ce groupe. C'est la première année, hein, je crois, que vous participez à Interclass.
Oui, la première année.
Vous êtes donc, vous travaillez à France Inter ici. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de vous engager? Et puis, quel fruit vous avez tiré de cette expérience?
Alors, Interclass, ça a été un vrai bonheur d'y participer, de rencontrer les élèves du Collège Pierre de Jeter. Et pour moi, c'est surtout un très beau projet de transmission. J'adore mon métier. Pour moi, c'était extra de pouvoir le partager avec les jeunes, avec les élèves, leur expliquer, de parler des règles journalistiques, de leur montrer comment aussi on peut décrypter l'information. Et puis, à la fin de l'année, place à la pratique. Et là, c'était vraiment un vrai bonheur.
Alors, vous avez rencontré aussi, on l'a entendu dans ce reportage, Raphaël Antoven, hein, qui est donc un philosophe connu. Émilie, ça t'a impressionné de le rencontrer?
Oui, parce que j'avais déjà entendu parler de lui. Et c'est vrai que c'est impressionnant de pouvoir parler avec un philosophe, en fait.
Il s'est prêté au jeu, quoi.
Oui, voilà.
Et est-ce que, donc tout à l'heure, vous disiez que c'est une ville qui se développe, etc. Il y a la Plaine Saint-Denis, il y a des boîtes qui ont leur siège là, notamment le siège de la SNCF, par exemple. Il est à la Plaine Saint-Denis, il y a des studios de cinéma. Les personnes qui viennent s'installer comme ça, que c'est ce qu'on appelle la gentrification, d'une manière un peu savante, mais est-ce que vous avez l'impression qu'elles vous piquent finalement votre territoire, votre chez-vous?
Non,
non.
Tout le monde est chez soi, parce qu'à Saint-Denis, il y a beaucoup de culture. Il y a aussi, par exemple, il y a des migrants qui viennent à Saint-Denis. Ils ne piquent pas notre territoire.
Et de toute manière, on est tous égaux.
Mmh. On est tous des humains, ouais. On est tous égaux.
Adam, c'est aussi ton avis? Ouais.
Madame, il y a quelque chose aussi.
Aboudou.
Depuis 1000 ans, le maire, on lui demande de faire des terrains, il ne veut pas.
Ouais.
Un terrain de football,
ça c'est sûr.
Ah ouais, mais ça c'est pas toujours facile.
On joue dans la rue, madame. On joue dans la rue. Il y a des gens qui passent sans faire exprès, on les touche. Ils disent mais allez voir le maire. Mais le maire ne fait pas de terrain.
Depuis 1000 ans. Alors si ça fait 1000 ans qu'il fait pas de terrain, bien alors je vais vous dire un truc, c'est que ça va pas s'arranger parce que maintenant que les filles se mettent aussi à jouer au foot, il faudra encore plus de terrain. Vous imaginez le boulot?
Oui.
Est-ce que vous auriez envie de jouer avec des filles au football?
Bah
oui, c'est
si elles ont le niveau.
Mais c'est la même chose.
Pour ça, il faut qu'elle s'accroche.
Non, elle a son niveau. Elle peut nous humilier.
Émilie et Denise, vous jouez au football?
Bah, personnellement, oui. Non.
Émilie, tu joues?
Enfin, ça fait longtemps que je n'ai pas joué au foot, puisque maintenant, c'est plus le basket, mais oui.
Alors, vous aimez le foot, vous aimez plein de choses, on l'a compris. Vous aimez aussi la musique. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter? Parce que là, c'est vous qui l'avez choisi, Aboudou. Je crois que c'est votre groupe, hein, qui a choisi.
C'est Rapta, qui est fait par Eus L'Enfoiré et Sofiane.
Salope de bois, chocat et l'autocar. Midi, départ, Paris, Neymar. Nasser, Qatar, voiture très rare. Benda, je démarre. Esprit, lemon, cheesy. DZ, flexi, cheesy. Rallye, pressing, musique, streaming. Bouteille, parking. J'suis une moula. T'es en esprit. J'suis dans ma rapta, ya ya ya. J'en ai
je t'aime. Affranchi contre le game. Embrouille XL, terrain, ficelle. Raptas à toi, je vois des pixels. Hey, nous c'est les grands du quartier. Ouais, nous c'est les grands de la thèse. Problème, Balek, Brésil, Sadek, Benef, Chenef, Philippe, Patrick.
T'es moula,
t'es moula.
J'suis en esprit.
Les magiques, tartin génial, poli spécial, safran, mégane, stomy, vegan, régal, siroc, belvé, grégousse, VG, repu, séché, dolce, versace, c'est léger, coffret, pétage, fichier, gardave, dépôt, bien équipé.
J'suis une moula,
t'es une moula,
j'suis en esprit,
t'es en esprit.
C'était donc Us l'Enfoiré et Sofiane, votre choix. Est-ce que vous pouvez me raconter ce que c'est qu'une... Il y a un moment donné, il dit « je suis une moula », »,« t'es une moula », qu'est-ce que c'est ? Aboudou.
Moula, ça veut dire... en gros, ça veut dire l'argent.
C'est un terme d'argot qui veut dire l'argent. Mais ça ne veut pas dire que de l'argent.
Ça veut dire aussi le cannabis.
Interclass.
C'est de la bombe
sur France Inter.
Interclasse donc jusqu'à 21h avec les élèves du collège Pierre de Jeter de Saint-Denis. Deuxième reportage à présent, on en a entendu un court extrait au début de l'émission. Certains d'entre vous ont rencontré Abdelmalik, mais pas n'importe où, au musée d'Orsay, à l'occasion de l'exposition Le Modèle Noir de Géricault à Matisse. Abdelmalik y a été invité pour présenter son nouveau spectacle.
On rêve de musée, mais pas d'être muséifié. Sous la nef, l'ancienne gare, mais personne n'y prend garde. Dans nos poitrails ont lieu tous nos voyages. Dehors, la désolation contemple son ouvrage. Je sais, je suis le jeune noir à l'épée.
Un lundi calme de fermeture au musée d'Orsay, nous rencontrons Abdelmalik, au détour des galeries lumineuses du bâtiment historique. Le rappeur, poète, écrivain et réalisateur nous accueille devant le tableau Le jeune noir à l'épée de Pierre Puvis de Chavannes.
Son corps, la sérénité de son visage, presque enfantin, assis sur un drap bleu, et avec sa peau et le bonnet, ça fait bleu-noir-rouge, comme un contrepoint du bleu-blanc-rouge. Derrière, on ne sait pas trop si ça brûle ou s'il y a eu quelque chose de l'ordre du chaos, et on est frappé par sa sérénité. Et moi, j'ai eu envie de raconter l'histoire de ce jeune homme, de ce jeune noir. J'ai eu envie de le raconter aujourd'hui, au XXIe siècle.
Abdelmalik a choisi ce tableau peint en 1850 pour écrire un album de chansons et réaliser une performance artistique. De ce tableau, il a aussi tiré de l'inspiration pour un poème de 200 pages.
C'est un poème sur l'identité. Donc ce jeune homme-là, mais aujourd'hui, qui est en prison, et en prison, il se rend compte de l'importance du savoir et de l'éducation pour pouvoir transcender sa condition. On suit son parcours, où il se pose des questions sur lui, ce qu'il est en termes d'identité. Il est noir, certes, mais il est né en France, il est français, il est européen. Un peu comme Aimé Césaire quand il dit, en substance, il dit noir comme un département de l'humanité.
Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui pleure un rêve qui prendra vie une fois passé Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui se demande si l'histoire le retiendra comme celui qui portait le nom de cette montagne.
Pourquoi défendre la côte noire spécifiquement et en parler autant dans votre slam Gibraltar ?
Ben, je vais vous donner un exemple. J'aime l'opéra, j'aime les ballets. Donc je vais voir tel ballet et je vois dans ce ballet, il n'y a que des danseurs et des danseuses blancs, blanches. Ça ne me gêne pas parce qu'ils sont là à magnifier l'universel. Parce qu'on parle de l'émotion, on parle des choses qui nous concernent tous. Mais je voudrais aussi que de l'autre côté, si on voit un spectacle où il n'y a que des noirs, qu'on ait cette même démarche, qu'on ne voit pas des noirs, mais juste des gens qui défendent ces valeurs universelles. Le danger, c'est qu'on ait le sentiment qu'il y a une partie de la communauté humaine qui est légitime à symboliser l'humanité et une autre qui ne le serait pas.
Après avoir écouté les réponses très philosophiques de l'artiste, nous lui avons demandé sa vision de la France actuelle.
On a un patrimoine fabuleux, c'est-à-dire on a des auteurs, des intellectuels, des grandes figures universelles qui ont permis finalement au rayonnement de la France. Mais on vit aussi une crise profonde en France. On n'a pas de référent qui serait assez pertinent pour nous rassembler tous, permettre finalement qu'on puisse avancer tous ensemble avec nos différences de manière puissante et forte dans la France du 21e siècle.
Nous avons souhaité savoir quelles solutions existaient selon lui à cette crise française.
Que ce soit pour la France, que ce soit pour l'Europe, que ce soit pour le monde, il y a une notion qui est hyper importante pour moi qui est l'empathie et l'amour. Et s'il n'y a pas cette démarche d'empathie et d'amour, ça ne sera pas possible d'avancer.
Pour terminer notre entretien, le poète a souhaité savoir si nous avions l'impression, en tant que jeunes, d'être assez écoutés. Abdelmalik nous a rappelé à tous notre importance dans l'avenir du pays.
Moi, je pense que vous avez largement tous les épaules et la carrure. Donc le conseil que je vous donne en tant que gars du 20e siècle, c'est d'avoir confiance en vous et d'y aller, tout simplement.
La France, elle est belle, tu le sais en vrai, la France, on l'aime. Y'a qu'à voir quand on retourne au bled. La France, elle est belle, regarde tous ces beaux visages qui s'entremêlent. Ça, c'est du lourd. Et quand t'insultes ce pays, quand t'insultes ton pays, en fait, tu t'insultes toi-même. Faut qu'on se lève, faut qu'on se batte ensemble. Rien à faire de ces mecs qui disent vous jouez un rôle ou vous rêvez. C'est eux qui disent vous allez vous réveiller. Parce que si on y arrive, si on y arrive à faire front avec nos différences sous une seule bannière, comme un seul peuple, comme un seul homme, ils diront quoi tous, hein? Ben, que c'est du lourd, un truc de malade.
Ce reportage a été réalisé par Alissa Benzaki, Bilal Riaï, Nézar Ben Abdelkader, Ludy Sivaton et Thomas Beaumart.
Avec Fanny Léonore Crouzet. Fanny, ça s'est passé comment cette rencontre? D'abord, est-ce que ça a été facile à organiser?
Alors ça a été très facile à organiser grâce au musée d'Orsay qu'on remercie parce qu'Abdelmalik a un emploi du temps qui est très chargé parce que c'est un homme qui fait plein de choses. Et le musée d'Orsay nous a eu une demi-heure d'interview, un jour de fermeture dans le musée. Donc les élèves avaient le musée Abdelmalik pour eux tout seuls pendant une demi-heure. Et Bilal, à un moment, qui en parlera un petit peu après, a souligné auprès d'Abdelmalik qu'il leur posait plein de questions parce qu'au début c'était une interview, c'est devenu une conversation entre eux. Bilal parlait de l'importance du rêve et j'aimerais bien qu'il nous en parle aujourd'hui.
Qu'est-ce que tu lui as dit ou qu'est-ce qu'il t'a dit?
Il m'a dit si on était perdu. Et moi, je lui ai dit que non, pas forcément, on peut rêver.
C'est important de rêver?
Bah oui, c'est important. Ouais, ça permet de nous échapper. Et
De t'échapper de quoi?
Bah des choses qu'on n'aime pas, de la monotonie, passer l'aspirateur. Des trucs comme ça. Et allez,
mais c'est génial si tu peux passer l'aspirateur en rêvant. Tu me diras comment tu fais, parce que moi je vais m'y mettre alors.
Mais après je le fais n'importe comment.
Ah. Et quand tu rêves de quoi?
De ce que je fais, de ce que j'aimerais faire et de ce que j'ai fait aussi.
Ouais.
Je rêve de tout.
Luigi, on t'a pas encore entendu, bonsoir.
Bonsoir.
Tu rêves toi aussi?
Ouais, je rêve. Moi, je dis que les rêves, c'est important, car sans les rêves, Martin Luther King, il n'aurait jamais sorti sa phrase iconique. Les rêves, ça permet de s'échapper. Sans rêve, on n'a pas de personnalité, on fait comme les autres et puis c'est tout.
Et une des choses que dit Abdelmalik aussi, c'est que la partie sera gagnée le jour où, quand on verra un homme noir ou une femme noire, ce sera devenu finalement quelque chose d'universel et de symbolique de l'humanité.
C'est que la partie, elle est déjà gagnée, alors, puisque il y a plein d'hommes noirs, de femmes noires qui font de grandes choses. Par exemple, Martin Luther King, il est très, très parlé. On parle beaucoup de lui. Barack Obama, malgré qu'il ait fini ses deux mandats, on parle toujours de lui. Il y a Michelle Obama aussi. Il y a des sportives. Il y a par exemple LeBron James qui avait sorti quelque chose sur Donald Trump et puis ça a été écouté, controversé, et ça a été beaucoup parlé.
T'es en train de nous dire qu'il peut y avoir des modèles noirs?
Ah oui, il y en a plein.
Ouais. Émilie, c'est ton avis aussi?
Oui, bien sûr.
Tu partages l'optimisme de Luigi?
Oui, dans l'histoire,
Depuis longtemps, on a beaucoup de modèles noirs. On ne peut pas dire le contraire. Il y a Rosa Parks, il y a plein de modèles.
Et est-ce que tu penses que ça, c'est acquis une fois pour toutes? Ou est-ce qu'à un moment donné, il peut de nouveau y avoir des relents racistes?
On n'a pas tous les mêmes opinions, on n'a pas la même façon de penser. Donc, pour moi, dire qu'un jour, il n'y aura plus de racisme, ce n'est pas possible.
Luigi, qu'est-ce que tu penses? Parce que tu as beaucoup fait des gestes là pendant que Emily parlait.
Ce serait... Si tout le monde avait la même personnalité, le monde il serait ennuyant, il n'y aurait pas... les informations n'auraient même pas lieu d'être, les débats, les réunions, par exemple les questions que vous me posez là maintenant, ça n'aurait même pas lieu d'être. On aurait une réponse et puis c'est tout. Et puis pour moi, le racisme, il y en aura toujours, mais... Avant, on en parlait beaucoup. Par exemple, une discussion entre un café, ça pouvait se faire. Ah oui, aujourd'hui, il y a un négro qui a frappé quelqu'un. Ah ouais, comme d'habitude et tout et tout. Mais là, maintenant, ça se fait plus. Ça se fait plus dans n'importe quel lieu. Enfin, il y a plus trop de racisme, je dirais. Et puis aussi, c'est peut-être parce que je viens de Saint-Denis, que c'est une ville avec beaucoup de culture. C'est peut-être pour ça que j'ai jamais été sujet au racisme. Parce qu'il y a de tout, il y a tout le monde, toutes les cultures. Il y a la culture maghrébine, noire, blanche, hindoue, il y a tout.
Est-ce que vous pensez que on vous donne votre juste place à vous en tant que jeune? C'est-à-dire qu'au fond, vous avez la parole, vous avez des idées, vous avez des choses à mettre en œuvre. Thomas, il y a longtemps qu'on t'a pas entendu.
Non, je pense pas. Je pense que la jeunesse n'est pas assez écoutée. Et justement, c'est le contraire en fait. Je pense que... On dit que la jeunesse aujourd'hui, elle n'est pas forcément très intelligente. Je pense qu'on la met plus de côté qu'on l'écoute. On ne l'écoute pas assez, je pense, vraiment pas.
Ça aussi, c'est une forme de discrimination, oui. Au fond. Bilal, est-ce qu'on laisse, à ton sens, suffisamment de place aux jeunes pour qu'ils parlent, pour qu'ils disent leur avis, pour qu'ils agissent?
Bah oui, je pense. Bah oui, comme là maintenant.
Luigi, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Toi, tu n'as pas besoin qu'on te donne la parole, tu la prends, c'est ça?
Avant. Quand j'avais, il y a 5 ans je crois, avant on m'écoutait pas, mais maintenant ouais, on m'écoute en famille, on fait des débats, je donne mon avis. Avant on me disait, ouais t'es un enfant, reste dans ton âge, reste à ta place, mais maintenant non, on m'écoute. La jeunesse elle a assez écouté je trouve. Après ça dépend de ce qu'on fait, sur notre temps libre. Par exemple, si on fait que jouer et tout, on va nous mettre sur un débat politique par exemple, on va pas savoir quoi dire. Du coup, ouais, c'est pas intéressant. C'est à ce moment-là que les vieux, entre guillemets, ils disent que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est nul, c'est que Snapchat, c'est que Instagram. Mais il y en a qui lisent, qui regardent des vidéos sur YouTube sur la politique, autre chose que Snapchat et Instagram. Et du coup, c'est ceux-là qui devraient écouter.
Les vieux, ça commence à quel âge?
Je dirais à partir... de 35 ans.
Oh, ça va, ça laisse de la marge. On va écouter un peu de musique. Kenza, tu nous dis ce qu'on écoute?
Et maintenant, nous écoutons What's My Name de Drake et Rihanna.
Heard you good with them soft lips. Yeah, you know word of mouth. The square root of 69 is A-some, right? Cause I've been trying to work it out. Good white wine, I come alive in the nighttime. Yeah, okay, away we go. Only thing we have on is the radio. Oh, let it play. Say you gotta leave, but I know you wanna stay. You just waiting on the traffic jam to finish, girl. The things that we can do in 20 minutes, girl. Say my name, say my name. Wear it out. It's getting hot, crack a window, air it out. I can get you through a mighty long day. Soon as you go, the text that I write is gonna say. Challenge, let's explore your talent. Hey boy, I really wanna
What's My Name de Drake et Rihanna.
Merci Marjane.
Interclasse.
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 Sur France Inter.
Autre reportage, toujours avec les élèves de Saint-Denis, effectué avec France Terre d'Asile à Paris dans le 18e.
À Paris, dans le 18e arrondissement, se trouve un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile, dit CADA. Il est géré par France Terre d'Asile, association qui s'occupe de 34 centres de ce type en France.
Bonjour.
Bonjour. Bienvenue.
C'est dans une ambiance calme et chaleureuse que l'équipe de l'association nous reçoit dans ses bureaux.
Ah, venez, suivez-moi. C'est par là.
Nous rencontrons Jean-Marc Sirejol.
Je suis le directeur de ce CADA, Centre d'accueil pour demandeurs d'asile, de France Terre d'Asile.
Nous lui demandons quelle est sa vision de l'accueil des demandeurs d'asile en France.
Beaucoup de ces personnes arrivent chez nous très fatiguées ou ont subi des traumatismes liés à ce qu'ils ont vécu dans leur pays, par exemple, ou sur la route migratoire. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est adapté? Oui, CADA, il y a 40 000 places en CADA pour 100 000 personnes qui arrivent chaque année. Donc le nombre de places est encore insuffisant.
Dans le centre, Kadji, chargée d'insertion et assistante sociale, écoute et conseille les demandeurs d'asile dans leur projet d'installation en France.
Quelles sont les principales difficultés de votre métier?
Ils ont des récits de vie qui souvent sont très très poignants, mais il y a plusieurs problématiques. Il peut y avoir une problématique santé, il peut y avoir une problématique qui est très importante, le français, et l'association France Terre d'Asile essaye de mettre sa pierre dans l'édifice pour que la situation s'améliore.
Dans le bureau du directeur, deux résidents du CADA nous parlent de leur histoire avec beaucoup d'émotion.
Je suis mademoiselle Sarah, je viens de la Côte d'Ivoire.
Pourquoi avoir choisi la France?
Parce que c'est un pays où les droits sont plus ou moins respectés. Les droits de l'homme et surtout en matière de protection, c'est-à-dire l'égalité entre les hommes. Et la liberté.
Sarah a fui la Côte d'Ivoire à la suite de persécutions. Malgré les difficultés de la vie, elle garde le sourire grâce à l'aide du centre d'accueil.
Le fait d'avoir un toit où dormir, c'était vraiment quelque chose de... Je ne m'y attendais pas et c'était quelque chose qui m'a... Parce que le fait de dormir dehors et apprendre à te trouver un logement, c'est une joie qu'on ne peut pas expliquer. Lorsqu'on organise des sorties et qu'on voit, on rencontre d'autres personnes... Tu te rends compte que c'est pas forcément la pire des situations que tu vis. Donc ça te permet de relativiser.
À côté de Sarah se tient un homme. On lui demande de se présenter.
Bon, je dis pas mon nom complet par rapport à mon engagement politique. Donc je dis le nom de famille en fait. Je m'appelle Diallo, je viens de la Guinée-Conakry.
Diallo a fui son pays car il luttait contre le pouvoir en place. Il a aujourd'hui peu d'espoir de voir la situation changer en Guinée-Conakry.
Moi, souvent, je rencontre des personnes qui me disent que tu es courageux. Et je leur pose la question pourquoi vous me dites ça. Ils me disent que tu as traversé le désert, tu as traversé la mer. Je dis non, ce n'est pas une question de courage, c'est un manque de choix. Quand même, je fournis un effort pour pouvoir résister. Mais ce n'est pas facile.
Vous avez du courage quand même.
Vous le dites, mais moi, je... Bon, oui, peut-être.
Merci.
Je vous dirai toujours dit aux bons amis, toujours dit ça, la vérité. Je me l'ai toujours dit, même si ça blesse, toujours dit ça, la vérité.
C'était un reportage de Mbarek Marjane, Bachidi Fatoumata, Adam Labraoui, Kanda Idara et Aboudou Soukouna.
Avec Mathilde Klatt. Vous avez été impressionnée, Marjane?
Oui, c'était très émouvant. Quand ils nous racontaient leurs histoires, ils tremblaient, ils avaient de l'émotion en eux.
Fatoumata, toi aussi, je crois savoir que tu as été émue, non, d'aller dans ce centre d'accueil?
Oui.
Et je me suis laissée dire que, avec Sarah, vous avez parlé à un moment donné en Bambara.
Oui. Elle m'avait expliqué en Bambara ce qui s'était vraiment passé en détail. C'était en fait l'âme avec qui elle devait se marier de force. Bah, elle a grandi avec, elle a connu par cœur. Il était déjà marié avec trois femmes, il avait déjà 16 enfants déjà. et que son père voulait la marier de force et il a circoncisé de force aussi. Donc elle a dû s'échapper chez elle.
Est-ce que vous pensez que du coup, comme vous avez une position, alors pour le coup plutôt privilégiée ici en France, il faut se battre pour celles qui en ont besoin?
Oui. Parce qu'elles ont besoin.
Fatoumata, oui.
Parce qu'elles se sentent seules dans ces moments-là, elles se sentent seules. Pour elles, elles n'ont plus rien. Elles sont seules contre tous.
Mathilde Klatz, c'est émouvant hein, ce reportage. Comment est-ce que ça s'est passé?
Oui, c'est très émouvant et surtout ce qui est touchant, c'est que ce groupe, ils ont tout de suite voulu parler de cette thématique, enfin des migrants. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a étonnée en faisant Interclass, c'est que en fait, ils sont vraiment préoccupés par l'actualité. Ils avaient envie de traiter de sujets très sérieux.
En fait, vous êtes en train de nous dire que vous-même, vous avez été surprise de la façon dont ça s'est passé, que ce n'est pas forcément ce à quoi vous vous attendiez.
Oui, bah les jeunes
surprise
sont,
en bien.
Les hein. jeunes sont surprenants et c'est bien, on est surpris des deux côtés. Et, ouais.
Bon, là, vous pouvez, on est entre nous, vous pouvez nous le dire, mais elle était sympa avec vous, Mathilde, ou pas?
Bah, bien sûr.
Bien sûr. Et Fanny aussi?
Oui.
Ouais, c'était des bons guides.
Oui.
Bon. Aloïs Sauvage, est-ce que vous la connaissez? C'est une chanteuse. Vous la connaissez ou pas?
Non.
C'est une jeune artiste qu'on aime beaucoup ici sur France Inter. Elle chante, elle fait plein de choses, elle danse aussi, elle fait du cirque. Elle écrit très jolies chansons, elle est en tournée en ce moment. Et à l'automne d'ailleurs, elle sera à Paris, l'Élysée Montmartre. Et comme on est tous fans dans l'équipe, je pense qu'on ira la voir. J'espère que ça va vous plaire.
Tête à demi penchée. Faisant une moue dubitative, rêve dans le semi-remorque. Les fous prennent tous les risques. Les fluves de l'arène me fait bouillir. J'ai le cœur au combat, même en temps de crise. Les effets de l'adrénaline me défendent mes affaires câlines. J'ai pas idée combien l'accès au palier va me faire pâlir de vertige. Mais ce soir, je veux me délecter hilar de cet élan qui ne s'arrête plus. Les vertiges. Donc ce soir, je veux me délecter hilar de cet élan qui ne s'arrête plus. À l'horizontale, je te propose qu'on à l'horizontale. On pourrait peut-être à l'horizontale. Puis on verra si à l'horizontale. À l'horizontale, je te propose qu'on à l'horizontale. On pourrait peut-être à l'horizontale. Puis on verra si à l'horizontale. Tempérer la fièvre, tremper ses lèvres, ou tempérer la fièvre. J'aime ta tête appuyée sur ma clavicule, légèrement tournée vers ma nuque pour que mes yeux te bougent. Que ta bouche coule parfois jusqu'au bout de mon menton et m'embrasse très tendrement. Avec toi j'ai tout mon temps, les bras m'entourent, mais tantôt je ne dis rien car ça me va bien d'être envoûté par tes tentacules. J'ai pas de fascicules pour savoir comment m'adonner à cette sainte donation de nos corps entremêlés. Faudrait-il faire attention à l'horizontale? Je te propose qu'on à l'horizontale. On pourrait peut-être à l'horizontale. Puis on verra si à l'horizontale. À l'horizontale. Je te propose qu'on à l'horizontale. On pourrait peut-être à l'horizontale. Puis on verra si à l'horizontale. Tu voulais la mer, donc je te l'ai donnée. Les draps trempés, c'est pas que pour la scéno. Moi je suis polisson. Tu me regardes en souriant. Le baiser a fait le beau car je vois bien comme il t'a eu. Je suis rentré sans frapper, c'est une mauvaise habitude. L'approche a cédé à l'accroche qui s'est agrippée sans litige. À plus tard, on se rappelle. Si je te crois, je te connaîtrai. J'ai même espoir qu'on se reconnecte.
C'était Aloïs Sauvage à l'horizontale.
Interclass,
saison 4,
sur France Inter.
Je sais pas si c'est bien raisonnable de demander à quelqu'un de ton âge de désannoncer une chanson qui s'intitule à l'horizontale. Mais enfin bon, on a commencé cette émission d'Interclass en parlant des préjugés qui existaient entre Paris et Saint-Denis. Préjugés des deux côtés, je le rappelle. Alors vous êtes plusieurs dans votre classe à être allés prendre le pouls des Dionysiens un jour de marché. Est-ce qu'on est discriminé quand on vient de Saint-Denis?
Mardi, c'est jour de marché à Saint-Denis. Marie est la grand-mère de deux petites filles. Elle avoue être inquiète de les voir grandir à Saint-Denis. Nous lui demandons pourquoi.
Bah, pour l'instant, ça va très bien. Je m'inquiète quand elles auront votre âge. Je n'ai pas l'impression que les enfants qui sont à Saint-Denis soient vraiment ouverts sur le monde. Voilà.
Anissa, de son côté, est très fière de la réussite de ses enfants.
Ils ont des bons bagages. Ils ont eu bac plus 6. Ils dirigent une entreprise. Leurs enfants, ils font des études de cinéma. Et puis voilà.
Est-ce qu'une école à Saint-Denis offre les mêmes chances qu'ailleurs? Bruno Bobkiewicz, proviseur du lycée Paul-Éluard à Saint-Denis, nous donne son avis.
Bah, notre travail, c'est de faire en sorte qu'il y ait les mêmes chances. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la place des établissements publics, c'est justement de donner les mêmes chances. Donc si je n'y croyais pas, je pense que je ne ferais pas ce métier. Et j'ai la faiblesse de penser que tout élève sérieux, dans n'importe quel établissement de France, s'en sortira.
En pratique, pourtant, les inégalités existent.
Notre système éducatif français reproduit les inégalités sociales. Et c'est plus difficile de poursuivre des études et de bien réussir quand on est issu de milieux défavorisés que de milieux favorisés. Les conditions de vie, l'accompagnement potentiel des familles ou pas à la maison, et les conseils qui sont donnés aux élèves par leurs parents et leur entourage, fait que on n'est pas tous à égalité.
Ismaël Mbaye est professeur de droit et collaborateur parlementaire. Il a grandi dans un quartier populaire.
Je ne suis pas né en France, je suis venu dans les années 80. Quand tu viens de l'extérieur, tu es obligé de t'adapter à ton environnement. Avec un ami, on a fait une colocation dans le 17e et on a découvert Paris.
Pour lui, rien n'est systématique.
Est-ce que dans votre parcours, est-ce que ça a beaucoup joué le fait que vous veniez du 91?
À vrai dire, je m'en rends pas vraiment compte parce que moi, à chaque fois que j'ai postulé pour un stage, j'ai été pris. Donc, est-ce que les stigmates et les préjugés des quartiers populaires, c'est vrai? Oui et non. Oui, au premier abord, on va se dire, ouais, il vient du 93, oh, il vient d'un quartier difficile. Est-ce que on tente avec lui ou pas? Il y a d'autres personnes aussi justement qui se disent, justement, il vient des quartiers populaires. On va lui donner sa chance pour voir ce qu'il vaut. Et c'est pour ça qu'il faut pas décevoir après.
On a compris que pour réussir, il faut s'engager personnellement. Patrick Simon, chercheur à l'INED, a donné un avis scientifique sur la question.
Alors, la discrimination liée à son lieu de résidence existe. Il y a eu beaucoup d'études qui l'ont démontré. Donc, Saint-Denis en fait partie. Quand vous avez sur votre CV l'adresse à Saint-Denis, il y a beaucoup d'employeurs qui se disent ben, « moi, j'ai pas très envie de m'embarrasser avec quelqu'un qui vient de Saint-Denis ». C'est illégal. C'est très compliqué à démontrer.
Mais comment briser cette réputation qui pourrait avoir des conséquences sur nos trajectoires personnelles?
Il y a des habitants de tous les milieux sociaux qui y habitent, et en particulier l'arrivée d'habitants de classe moyenne et supérieure. C'est ce qu'on appelle la gentrification, c'est-à-dire l'embourgeoisement d'une ville. Il y a d'autres façons aussi d'essayer de renforcer l'image positive avec les habitants qui y sont, en montrant que ces habitants font des choses, sont actifs, et puis il y a une solidarité, il y a une façon de vivre aussi qui est positive, et ça c'est une façon aussi d'envoyer des images et des messages au reste de la région parisienne en disant que Saint-Denis est une ville attractive, et en fait Saint-Denis c'est plutôt une ville pas mal, non? Du coup on compte sur vous, hein. Parce que c'est vous la société de demain, évidemment.
Oui, c'est vrai.
C'était un reportage de Adam Smeite, Denis Dustopal, Kenza Betelgor, Miki Tavares et Alexandra Pop.
Merci Alexandra et bravo pour votre reportage. Ça c'est donc le constat pour aujourd'hui. Demain, probablement, ce sera différent. On espère que ce sera mieux aussi grâce à vous. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire quand vous serez grand, c'est-à-dire dans pas si longtemps, Fatoumata?
Oui, je travaille à maroquinerie.
C'est-à-dire?
Travailler dans le métier du cuir.
Aboudou?
Moi, j'aimerais faire un métier de l'informatique. Car l'informatique, c'est
ce qu'il y a de mieux.
Les bons chômages grâce à ça.
Ouais, mais t'as raison de choisir aussi un métier où on a du boulot.
Mais moi, j'aime l'informatique, j'aime vraiment l'informatique.
Tu me donneras des cours?
Oui.
Ah, je te promets, t'auras de l'argent de poche. Kenza, qu'est-ce que tu veux faire plus tard?
Ce que je veux faire plus tard, c'est infirmière, parce que j'aime bien m'occuper des gens.
Ouais. Candé?
Pareil.
Infirmière. Madiaba?
Alors moi, je vais devenir pompier pour sauver la vie des gens. Ouais.
Yacine, qu'est-ce que tu veux faire?
Moi, je veux devenir policier dans le GIGN.
Ah oui, carrément, donc c'est l'élite, là. Luigi, toi, tu sais déjà?
J'aimerais bien devenir basketteur professionnel, sinon aller dans l'armée, à la Légion étrangère, pour pouvoir protéger l'honneur de mon beau pays qui est la France à travers les frontières.
T'es monde. Sûr qu'on t'a pas écrit ton texte? Là, c'est toi qui le dis. C'est
bah
vrai?
Oui.
C'est super. Mais c'est bien parce qu'on n'a pas toujours une idée précise de ce qu'on veut faire à votre âge. Je vais demander à Maud Oudard et à Yanis Roder donc de nous rejoindre autour de la table. Il faut, oui, c'est le jeu des chaises musicales. Maud Oudard, vous, ça fait donc la troisième année que vous participez à Interclasse. Quel bilan, en tout cas pour cette année, quel bilan provisoire vous pourriez tirer de ce qui a été fait, de ce qui a été entendu?
Comme d'habitude, c'est un bilan tout à fait positif. Les élèves sont plus ou moins investis dans le projet, c'est normal aussi, c'est en fonction des personnalités. Et ça leur permet à eux et puis aussi à nous de découvrir de nouvelles choses. C'est le plus important.
Yanis Roder, est-ce que ça change quelque chose dans le fonctionnement de la classe?
Nécessairement, ça change nécessairement quelque chose parce que les relations, vous avez les relations horizontales entre les élèves qui changent et puis vous avez la soi-disant relation verticale avec les enseignants qui change aussi et qui évolue. Nous n'avons pas avec les élèves le même rapport que je peux avoir avec d'autres classes par exemple. On a fait des choses ensemble, on a fait des micro-trottoirs, on a passé quelques heures ensemble à essayer de faire des interviews, à se faire rembarrer, à rire, à s'énerver aussi. Et tout cela crée des liens, voilà, une complicité en fait que je ne retrouve pas dans d'autres classes. Donc oui, ça change la classe, ça change l'ambiance.
Pourquoi s'en priver? Moi, j'ajoute que, Yanis Roder, vous avez publié un livre chez Odile Jacob où vous racontez précisément votre expérience dans l'interclasse qui s'appelle « Allons enfants, la République que vous appelle ». Interclasse, c'est fini pour ce soir. Rendez-vous samedi prochain à 20h. Merci à Lauriane Toulmont qui a réalisé cette émission, première donc d'une série de 7. Merci à Fanny Léonore Crouzet, coordinatrice du dispositif, à Fabrice Desmas qui a assuré la prise de son, à Muriel Pérez, la programmation musicale. Enfin, merci à vous, les élèves du collège Pierre de Jeter à Saint-Denis, ainsi qu'à vos professeurs et aux journalistes qui vous ont accompagnés.
Ouais!
Interclasse, c'est la classe.
Après le flash de 21h, place à la musique, les grands concerts d'Inter avec Mélanie Bauer.